Bonjour, c'est la première fois que je suis à l'antenne sur Radio Vassivière. L'équipe de la radio souhaite que je me présente et que je présente mon émission. Je suis Vincent le questionneur. J'ai une très faible vision, alors j'ai développé ma troisième oreille. C'est un peu comme le troisième œil, sauf que c'est l'oreille. C'est mon sixième chakra énergétique, l'oreille. Je pose une question, mais surtout, j'écoute la réponse. Cette émission pourrait éveiller votre troisième oreille à vous, les écoutantes et les écoutants de ce jour. Je vous demande de ne pas vous interdire de commenter tous les discours des invités, toute la plastique de l'émission et tous les propos du questionneur. Ne quittez jamais l'attention critique et candide de votre libre arbitre. Dans la série Les entretiens du questionneur, la campagne législative 2017 en creuse. Bienvenue dans notre émission politique printanière, en promenade dans la campagne. L'autre chemin qui se propose de respirer les fragrances humaines de notre futur député creusois à l'Assemblée nationale. Jean-Jacques Lacarrère, bonjour. Vous êtes candidat aux législatives pour lutte ouvrière pour la Creuse. Pouvez-vous nous parler de votre suppléante, s'il vous plaît ?
Francine est une infirmière retraitée, voilà.
Et ça fait combien de temps qu'elle est compagnon de route avec vous ? C'est une militante aussi, non ?
Oui, bien sûr. C'était une camarade qui était militante syndicale à l'hôpital. Et voilà, bon. Ça fait effectivement un certain temps. Oui, d'ailleurs, elle a déjà été candidate. Donc,
D'accord, très bien. Et on va parler un peu de votre histoire politique à vous. Dans quel berceau politique vous vous êtes biberonné pour atteindre vos convictions à lutte ouvrière ? En d'autres termes, quel a été votre déclencheur de votre premier engagement ? Est-ce que vous avez des souvenirs la première fois que vous avez été concerné par l'engagement politique ?
Oui, ben, je peux dire que j'ai, depuis toujours, c'est dans mes souvenirs, j'étais choqué, révolté par les injustices, par les inégalités. Et ensuite, bon, mes choix politiques se sont portés après mai 68, où j'ai vu comment la grève de l'époque, la grève générale, les occupations d'entreprises, grandes et petites, ont permis d'établir un rapport de force avec le patronat et d'imposer des revendications, alors que les élections jusque-là n'avaient rien changé. D'autant que ces élections qui ont suivi 68, on a vu la gauche et les syndicats faire reprendre le travail pour nous envoyer mettre un bout de papier dans une boîte, avec les conséquences qu'on a eues. Et donc à partir de ce moment-là, je me suis tourné vers les révolutionnaires, convaincu que la seule solution, c'est effectivement la lutte de classe et le rapport de force avec le patronat.
Vous êtes candidat aux fonctions de député. En supposant, quand vous serez élu député, comment allez-vous utiliser votre mandat pour défendre la Creuse ?
Alors d'abord, je ne serai pas élu. Je ne prétends pas me présenter pour être élu.
Ah, expliquez-nous ça.
Ben, je me présente comme tous mes camarades, femmes et hommes, au niveau du territoire, puisque nous sommes 553 à nous présenter, pour faire entendre le camp des travailleurs, les idées que défendait déjà Nathalie Arthaud au présidentiel et que défendait Arlette Laguy avant elle, à savoir qu'il faut préparer la riposte aux attaques qu'on va subir, il faut interdire les licenciements et partager le travail entre tous sans diminution de salaire. Il faut que chacun ait un salaire ou une pension qui soit au minimum de 1800 euros net, je précise, par mois. Et il faut, par ailleurs, et ça fait partie des revendications à mettre en avant dans les luttes de demain, imposer que les travailleurs et la population puissent contrôler le compte des entreprises pour vérifier quelle est la réalité de l'entreprise, où est l'argent, comment il est trafiqué, par où il passe. Parce que chaque fois que le patronat prétend qu'il est en difficulté et qu'il en profite pour licencier, aggraver les conditions de travail, bloquer les salaires, on s'aperçoit très rapidement après qu'en fait il croule sur le pognon, mais on n'a pas les moyens de le contrôler, de le dire ouvertement sans être licencié. Donc il faut empêcher, enfin, il faut lever le secret commercial et bancaire.
Mais j'entends bien, j'entends bien. Là, vous me déroulez le programme, j'entends bien. Mais j'arrive pas à saisir la cohérence, entre le fait que vous pourriez faire une action et le fait que vous partez en disant on sera pas élu. Donc, si vous êtes pas élu, j'ai une difficulté là à comprendre le sens de la participation à l'élection, en fait.
Les élections sont un des rares moments où nous avons accès aux médias. Et d'autre part, c'est pour permettre à ceux qui ont voté Nathalie Arthaud sur la base de ses idées, de son programme au présidentiel, de refaire ce geste-là, et à ceux qui ont trouvé que sa campagne était, enfin, se sont retrouvés dans sa campagne, mais n'ont pas voté pour elle, pour différentes raisons, de le faire cette fois-ci, pour affirmer justement qu'il existe un courant parmi les travailleurs, dans la population, dans les quartiers, qui est consciente que seule la lutte collective imposera des revendications au patronat, et que c'est une occasion d'affirmer justement que ce courant existe, et qu'il y a des centaines de milliers de personnes qui sont prêtes à faire de la propagande autour d'eux pour ces luttes à venir, qui sont prêtes à s'organiser pour préparer l'avenir. De la même façon que ces élections nous servent à expliquer qu'il faut reconstruire un véritable parti révolutionnaire communiste dans ce pays, pour justement que tous ces militantes et ces militants puissent être à les porte-parole des futurs grévistes, des futurs manifestants dans l'ensemble du territoire, et entre autres en Creuse.
Mais qu'est-ce que vous pensez du discours qui consisterait à dire « Mais ces candidats-là se positionnent en opportunistes pour essayer de récupérer un financement par le biais d'un cumul de voix ?»
Non, ça c'est...
Enfin, c'est vous voyez, qu'est-ce qu'on peut leur répondre? Moi, je suis que le porte-parole d'un discours qu'on peut entendre. Donc, qu'est-ce qu'on peut leur répondre?
On peut leur répondre que... Je cherche pas... Enfin, c'est de la foutaise que les politiciens professionnels soient effectivement à la recherche des financements d'État. C'est une chose. Moi, je paye une cotisation tous les mois. J'ai des camarades autour de moi qui nous aident financièrement pour nos activités. Nous, les élections, c'est défendre des idées, c'est défendre un programme, c'est permettre aux travailleurs, à ceux qui travaillent, ceux qui ont travaillé, ceux qui voudraient travailler, d'affirmer leur fierté d'être des travailleurs, leur conscience que la société est une société de classe, qu'il faut que la classe ouvrière, elle s'affiche, elle s'affirme, elle mette en avant ses revendications. C'est à ça que servent ces élections-là, pour nous.
Mais c'est-à-dire, alors je vous entends, mais j'ai aussi eu le loisir de lire sur un article, alors qu'on a interviewé des représentants de lutte ouvrière, je vous lis la phrase, « Il n'y a que la lutte qui est efficace, nous ne comptons pas sur les bulletins de vote, mais sur le drapeau rouge de la lutte. Oui. » Donc si vous ne comptez pas sur les bulletins de vote, cette déclaration, comment vous la faites vôtre?
Ben, simplement, on compte pas, je répète, nous présentons pour faire de la propagande pour nos idées, pour les idées communistes révolutionnaires, pour appeler les gens à s'organiser, à se préparer aux luttes qu'on aura demain. Parce que vous avez vu le gouvernement qu'on a, vous avez vu les mesures qui sont annoncées, vous avez vu les gens qui sont mis dans ce gouvernement-là. C'est un gouvernement entièrement au service du patronat, et il faut se préparer à le défendre contre les attaques qu'on va subir. Nous, les élections, ça nous sert à préparer, à organiser, à dire aux travailleurs qui seraient d'accord avec nous de voter pour nous, pour justement affirmer qu'ils sont prêts à se bagarrer.
Mais moi, par exemple, je pensais que la lutte, on préparait des actions. Quelle action de lutte pouvez-vous nous citer? Quelle action de lutte avez-vous fait? Citez-moi des actions de lutte. Là, vous me parlez, vous avez un discours de parole de lutte, mais pouvez-vous me citer des actions de lutte?
Je peux vous parler de ce que j'ai vécu, 1968.
Ah, c'est il y a très longtemps, mais je parle là. Mais allez-y, citez-moi 68, par exemple, supposons.
68 a permis d'imposer, avec des millions de grévistes, les entreprises occupées. On a bloqué l'économie. Les travailleurs ne travaillant plus, les patrons ne gagnaient plus d'argent. Au bout d'un certain temps, ils n'ont pas eu le choix. Ils ont été obligés de lâcher des augmentations de salaire qu'ils n'avaient pas l'intention de lâcher au départ. Non seulement ça a donné de l'argent à ceux qui travaillaient, mais en plus cet argent-là, il a servi à payer des commerçants, des artisans, ça leur a donné une clientèle. J'ai reconnu les grèves contre les menaces sur la retraite où on a imposé avec des millions de travailleurs en grève et les manifestations. Le fait que Juppé, qui était soi-disant droit dans ses bottes, ben, il a fini par les enlever et il a canné face aux grévistes. Voilà des moments où...
Donc là,
parce que... Après, le problème, c'est que malheureusement, certaines luttes n'ont pas été jusqu'au bout de leurs possibilités, qu'elles se sont arrêtées en cours de route et que le résultat, ben, on a perdu des choses.
quelle analyse vous faites justement du fait que vous venez de nous dire, malheureusement, des luttes se sont arrêtées. Donc, qu'est-ce que vous pensez du fait qu'à un moment donné, la lutte s'arrête? Quelle est votre analyse? Pourquoi elle s'arrête?
Bien, parce que malheureusement, on a, depuis des années et des années et des années, on paye le réformisme des organisations dites de gauche et des syndicats, qui sont plus prêts à négocier qu'à organiser les luttes. Je prends l'exemple du gouvernement Macron et des mesures qui sont annoncées pendant la campagne électorale et depuis qu'il est arrivé au gouvernement, et on voit les syndicats passer leur temps à expliquer qu'il faut négocier, qu'il faut discuter, que c'est sympathique, il les a bien reçus, mais c'est pas ça qu'il faut dire. Ce qu'il faut dire aux travailleurs, c'est commencer dès maintenant à vous organiser, discuter autour de vous pour préparer la riposte aux attaques qu'on va avoir. Et c'est évident que ce gouvernement va nous rentrer dedans. À partir du moment où ceux qui ont les moyens de propagande, les moyens de discuter, nous font des discours pour nous endormir, ben, le résultat c'est qu'effectivement, malheureusement, une partie des travailleurs est perdue.
Oui, mais ce que j'entends, c'est que vous dites les discours qu'on entend et de l'autre côté, vous proposez des discours. Je vous fais une proposition. Voilà. Moi, je pensais que la lutte, si on se réfère par exemple à la résistance, donc des gens qui se sont organisés pour lutter contre l'envahisseur, est-ce que vous êtes organisés en groupe de résistance? Avez-vous des services de renseignement qui vous informeraient sur ce qui va se passer a priori dans une entreprise? Par exemple, je situe mon raisonnement, GM&S. Avez-vous eu des informations? Étiez-vous au courant bien avant de ce qui allait se passer? Et avez-vous préparé des luttes d'abord, avant que les choses arrivent? Moi, j'ai cru comprendre, quand je comprends le mot lutte, qu'on s'organise en amont, qu'on prépare ses armes, qu'on attend, qu'on crée des guet-apens et qu'on attaque l'adversaire. Voyez ce que je veux dire? Et c'est en ça que je vous demandais des actions. Puisque votre fer de lance, de mots, c'est la lutte. Et moi, j'ai le sentiment d'avoir compris le mot lutte comme quelque chose qui sont des actions, et non pas des idées, ou non pas des paroles, ou non pas de la propagande.
Oui, non mais je vous suis bien. Le problème, c'est qu'effectivement, aujourd'hui, nous payons les conséquences de toutes les années qui sont passées, où justement, il n'y a pas eu de riposte aux attaques qui ont été menées contre la classe ouvrière, où l'on paye effectivement un certain recul des idées, une certaine démoralisation. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, c'est de la propagande que nous faisons. Nous sommes bien conscients qu'avec tout ce que nous avons subi ces derniers temps, on le voit bien d'ailleurs, les dernières luttes qui ont été tentées n'ont pas réussi au bout. Mais ça n'empêche qu'il faut continuer à défendre ces idées-là, qu'il faut continuer à militer pour ces idées-là, pour essayer de trouver de plus en plus de monde qui reprenne ces idées-là et qui en fasse une perspective d'avenir.
Mais je pense qu'il faut proposer des actions. Par exemple, je ne sais pas dans votre cas particulier si vous allez me répondre ou pas, mais j'avais noté la question comme ça. Est-ce que votre argent, par exemple, votre compte bancaire est dans une banque alternative? Est-ce que vous avez pensé lutte ouvrière, concevoir une banque alternative qui fait que, plutôt que de dire on doit lutter contre, on s'organise et on prépare ses armes, qui est une banque alternative, une banque gérée par vous-même? Avez-vous déjà pensé à ce type de solution?
Non, parce que nous pensons, nous, que le problème il est global. Nous sommes dans une société capitaliste dont toute l'organisation est basée sur le profit. On ne fabrique que si ça peut se vendre et si ça peut rapporter de l'argent. Et dans ces conditions-là, pour nous, le problème, il est la société dans son ensemble. C'est la société qu'il faut changer. C'est pas essayer de trouver un petit bout de solution dans un petit coin pour un certain nombre de gens et puis un petit bout pour d'autres personnes dans un coin. C'est global.
Mais c'est des actions de lutte. Ce que je vous propose, c'est vraiment des actions de lutte. Parce que du coup, vous comprenez ce que j'essaie de faire passer comme solutions qui sont... Enfin, je vous propose des types de solutions. Par exemple, j'avais réfléchi à... Vous allez me dire ce que vous en pensez. Si on reprend, par exemple, Plourette-Creusot-Creusois, la problématique que le département subit, et notamment surtout les ouvriers de GM&S, avez-vous, par exemple, réfléchi à accompagner GM&S dans un processus comme l'IP historiquement, d'autogestion? Pouvez-vous, vous, à l'intérieur de votre parti, à regrouper les forces et dire « mais nous, on va aider GM&S, on ne va pas attendre de dire « donnez-nous ceci, donnez-nous cela », on récupère tout ça et on gère en autogestion ».
Non, mais attendez, je comprends mieux.
Vous voyez?
Oui, je vois bien, mais j'ai connu la période de l'IP, justement.
Oui.
J'ai été manifesté à l'usine.
Ah, c'est bien, allez-y, oui. Racontez-moi-nous.
Pareil, en bus, et nous étions allés manifester. Mais le problème, c'est qu'il n'y a pas de. Bon, je comprends qu'une entreprise, je prends les camarades de GMS, moi j'étais récemment à la manifestation, j'avais été devant la préfecture. Mais bon, je suis totalement solidaire de ce qu'ils mènent comme combat. Il faut leur rendre justement cette justice-là. La solidarité qu'ils ont obtenue au travers de, justement de leur détermination, de leur lutte. Mais ce problème de GMS, il existe dans des dizaines et des dizaines de situations dans ce pays, et je ne parle pas d'au-delà du pays. Le problème, c'est qu'il n'y peut y avoir que de solutions globales. GMS, on sait que Renault a fait 3 milliards de bénéfices. On sait que PSA a fait 2 milliards et des poussières de bénéfices. Ça n'empêche qu'ils sont en train d'essayer de fermer cette boîte et de foutre les gens au chômage. Eh bien, avec cet argent-là, il y aurait largement de quoi maintenir les emplois, de largement de quoi maintenir le salaire. Mais ça veut dire imposer à PSA et à Renault un rapport de force qui les oblige à maintenir ces entreprises-là. Et ce qui se passe chez GMS se passe au niveau de l'ensemble du territoire et au niveau de l'ensemble des pays. Et c'est globalement qu'il faudra s'en prendre au système capitaliste. Et si on veut changer les choses, on ne va pas c'est pas ici ou là qu'on change les choses.
Vous croyez pas ?
Mais non, on peut obtenir momentanément un sursis. On peut momentanément obtenir qu'effectivement les emplois sont maintenus, mais si on n'a pas un rapport de force global, à un moment donné, il est évident que les patrons feront une saloperie pour essayer de gagner plus de pognon.
Mais le principe.
Dans le cas de. Regardez PSA. PSA, il y a 3 ans, a annoncé qu'ils avaient des milliards de pertes d'argent. Ils en ont profité pour fermer l'usine d'Aulnay, ils ont licencié, ils ont supprimé 17 000 personnes, 17 000 postes. 2 ans plus tard, ils rachètent Opel à raison de 2 milliards. C'est pour ça que, quand, par exemple, notre revendication sur le contrôle des comptes des entreprises s'appuie sur quelque chose de sérieux. On voit bien que les entreprises nous racontent du baratin. Quant à PSA, quelqu'un a fait parvenir au syndicat l'information comme quoi l'usine d'Aulnay allait fermer. Les syndicats sont montés au créneau pour demander des comptes à la direction de l'usine. La direction de l'usine a dit c'est pas vrai. Ils se sont adressés au gouvernement. Le gouvernement a répondu que mais non, PSA avait dit que c'était pas vrai. Résultat, un an plus tard, on a annoncé la fermeture officielle de la boîte.
Mais
il n'y a pas de solution individuelle, il n'y a pas de solution ici ou là, c'est le système qu'il faut changer.
Est-ce que je souhaiterais vous faire part d'un avis, enfin d'une opinion. Est-ce que vous connaissez le principe du colibri ? Le colibri, ce sont des oiseaux qui se mettent en fait chacun à plusieurs pour construire un nid. C'est-à-dire la symbolique, c'est que on arrive à un résultat si on fait une certaine quantité de petites actions. Mais bon, voilà, donc je vous le propose ça. Pour en revenir, donc je vous le dis comme ça, est-ce que vous voyez ce que je sous-entends par là ? Mais vous n'avez pas persévérance en ce type de milliards de petites actions qui pourraient se fédérer, et parce qu'elles seraient présentes, finalement, elles seraient valeur d'action, quoi, commune, du coup, parce qu'il y en aurait un petit peu partout. Ça,
Mais quand je vous dis qu'il faut que notre candidature, elle peut servir aux électeurs d'affirmer leur fierté d'être des travailleurs, leur conscience d'appartenir au camp des travailleurs, que le camp des travailleurs, c'est la lutte de classe. Il y a en face de nous la bourgeoisie qui nous exploite et qu'il faut se débarrasser de cette bourgeoisie, qu'il faut exproprier les propriétaires d'usines. On s'adresse à des millions et des dizaines de millions de personnes pour que chacun dans son coin répète ces arguments-là, les développe, essaye de les approfondir de façon à ce qu'on touche d'autres millions de personnes et qu'à un moment donné, lorsque les attaques seront telles qu'il y aura une réaction nécessairement, parce que plus on va s'enfoncer dans la misère. Vous avez vu les statistiques, 10% des riches, des plus riches en France possèdent 50% des richesses nationales, les pauvres sont de plus en plus nombreux et de plus en plus pauvres.
J'entends bien tout ça, mais l'ensemble des gens et des Français sont conscients de tout ça. La discussion qu'on essaie d'avoir là depuis un petit moment, c'était autour de la symbolique de la lutte, et bon, et moi j'essaie de discuter avec vous peut-être d'autres possibilités de lutter. Et c'est juste un échange qu'on a eu comme ça. Je voudrais vous demander un dernier avis sur si vous avez une réflexion, comme vous êtes ici candidat en Creuse, Avez-vous entendu parler de ce qui se passe à la ferme des Millevaux, que d'autres appellent le bâtiment d'engraissement de Saint-Martial-le-Vieux? Et avez-vous une opinion sur la tension, notamment à un moment donné, sur une lutte qu'il y a eu, qui a conduit justement, alors là pour le coup, de faire une action, où on ne sait pas qui, mais il y a eu une action d'opposition qui a fini par être en fait une action violente et brûler des bâtiments, enfin s'attaquer à une infrastructure. Que pensez-vous de ce type de clivage qu'il peut y avoir et donc de types d'actions qui ont été pour faire entendre une différence de position?
Non, mais je comprends, enfin, comment dire, ce que je peux dire, c'est qu'on retrouve dans l'agriculture, dans l'élevage, les mêmes principes que dans l'industrie, c'est-à-dire dans cette société-là, c'est-à-dire qu'il faut que ça rapporte, il faut que ça paye et que ça coûte moins cher. Donc, effectivement, ça leur coûte beaucoup moins cher des fermes immenses qui travaillent sous forme industrielle plutôt que des élevages avec des humains. Bon, ça, c'est la logique capitaliste. Qu'on s'y oppose, je suis tout à fait d'accord. Je ne suis pas pour faire travailler les gens dans des conditions dégueulasses. Je ne suis pas pour élever les animaux dans des conditions dégueulasses. Je ne suis pas pour abattre les animaux dans des conditions dégueulasses. Mais c'est là aussi, je le répète, il y a une logique. Alors qu'ensuite, localement, il y a une lutte qui soit organisée contre cette situation-là, je comprends. Bon, de là, aller brûler les bâtiments, ça c'est autre chose. Je cautionne pas.
Oui.
Mais, je veux dire, la ferme des Millevaux, elle est, c'est quelque part, l'industrialisation, ça correspond à l'industrialisation de l'agriculture et de l'élevage, au même titre que l'industrialisation de la fabrication des automobiles, mais ça a enlevé ici, mais les conditions dans les... Bon, je me laisse aller, mais je veux dire, l'industrialisation de l'agriculture dans les pays d'Afrique, ça fait crever les gens sur place. Et ça les empêche de bouffer, ils n'ont rien à, ils ont pas d'argent, ils sont obligés d'acheter des affaires importées. Donc on retrouve cette situation là en Creuse, mais on la retrouve dans le monde entier, parce qu'on est derrière une logique économique. Et c'est cette logique-là qu'il faut abattre.
Mais si je vous disais, par exemple, qu'un certain nombre de candidats qui sont venus à l'antenne, là, ont expliqué leur analyse en partant du fait que ces trois ou quatre agriculteurs, là je ne sais pas, hein, je ne me souviens plus du tout de combien ils sont, se sont regroupés parce que chacun en fait était en situation de perte de revenus, donc de perte d'autonomie d'existence quotidienne, quoi. Ils ont choisi cette option-là. Est-ce que c'est quelque chose qui est acceptable? Et de l'autre côté, je vais le lier en même temps, par exemple, la solution que Benoît Hamon avait de dire un revenu universel. Dans ce cas-là, par exemple, cette solution de Benoît Hamon qui était de mettre un revenu universel, est-ce que ça aurait pas été une opportunité pour justement lutter contre l'agro-industrie, à soutenir tous ces petits éleveurs qui étaient chacun installés sur leur exploitation, avec pas suffisamment de revenus, mais du coup un revenu universel de base qui venait compenser leurs pertes, mais qui leur permettait quand même chacun de rester sur leur site et de ne pas se grouper avec un seul client, être dépendant effectivement d'une agro-industrie. Là, je suis d'accord avec vous. Donc, est-ce qu'il n'y a pas une réflexion comme ça qu'on pourrait mener entre, par exemple, cette idée que portait Benoît Hamon dans le soutien de paysans voilà. Comme ça, qui eux sont amoureux de leurs bêtes au quotidien et qui, de surcroît, n'ont pas comme chemin, par exemple, comme certains, de s'installer à titre individuel jusqu'à aller la commercialisation en vente directe, parce que c'est d'abord des éleveurs, des regardeurs de terre, de soleil, de rosée le matin, mais ils ne vont pas avoir la passion de vendre à un client. Donc voilà ma réflexion. Qu'est-ce que vous pensez là de cette...
Alors, je vais déjà vous répondre sur le revenu universel. Je pense que c'est une vaste escroquerie.
Ah, alors le mot est dur. Allez-y, je vous écoute.
D'abord, entre le revenu que Hamon avait annoncé au début, puis celui qu'il a annoncé quelques mois plus tard, quelques semaines plus tard, quand il a eu l'illusion qu'il pourrait se retrouver au deuxième tour, il avait baissé le niveau de revenu parce qu'il savait que de toute façon, il ne pourrait pas le payer. Ensuite, la deuxième chose, c'est que prétendre un revenu universel, ça veut dire accepter l'idée du chômage pour des millions de personnes. Moi, je suis contre le chômage. Moi, je suis pour que tout le monde ait un travail, un salaire digne de ce nom qui permette de vivre. Je répète, 1800 euros net minimum par mois. Et parce que c'est la première des choses, c'est d'avoir pour n'importe quelle personne, c'est d'avoir un boulot et une paye qui va avec. Ça permet d'avoir une vie, d'avoir une famille, de l'élever, d'envisager l'avenir et d'avoir un minimum de culture. Considérer qu'on va laisser les gens chez eux crever dans leur appartement ou dans leur piole à regarder la télé s'ils ont les moyens de se la payer et rien faire d'autre, c'est dégueulasse. C'est la première des choses. Ensuite, le problème, c'est que le fait qu'effectivement des agriculteurs, des petits commerçants, comme les salariés, ne soient pas en capacité de vivre parce que la société n'est pas organisée pour le leur permettre.
Oui.
Ils essaient de se regrouper, qu'ils essaient de créer des
économies d'échelle, oui. Enfin, voilà.
Ouais. Importantes pour pour essayer de s'en sortir, il y a une logique. Mais le problème, c'est que de toute façon, c'est une lutte dans ce système-là, c'est une lutte permanente des gros qui essayent de bouffer les petits. Les petites entreprises qui sont coulées, qui sont rachetées par des plus grosses, les CLE un peu plus grosses, qui sont noyées, qui sont rachetées sous forme de filiales par les grands groupes capitalistes nationaux, internationaux, c'est la réalité du système. Et tant qu'on sera dans ce système-là, toutes les tentatives pour essayer de s'en sortir chacun dans son côté, ça sera de la foutaise. Quelques-uns s'en sortiront peut-être, mais la réalité, c'est si on si on n'abat pas ce système, on va continuer à s'enfoncer dans la misère, d'autant que le système est en crise du fait de son fonctionnement et que ça ne peut que s'aggraver.
Et par exemple, quand on lit dans votre programme, parce que j'arrive pas à très bien comprendre, si vous pouvez nous aider à comprendre, vous parlez du concept du salaire à vie. Est-ce que vous pouvez m'expliquer qu'est-ce que c'est que le salaire à vie ?
Ben moi, pour moi, quelqu'un qui travaille, la première, je répète, la première des choses pour toute personne, c'est d'avoir un travail avec un salaire qui permette de vivre. Et à partir du moment où on a travaillé, il est normal qu'on ait une retraite qui nous permette, dans les mêmes conditions, de continuer à vivre, de continuer à avoir une activité sociale. Voilà, c'est tout. Et ça, je veux dire, c'est là. Je ne vois pas ce qu'il y a de compliqué derrière.
Non, non, c'était le fait de l'utilisation, si vous voulez, on va dire, du concept verbal, parce qu'actuellement, on a un salaire, on a une retraite, et vous conceptualisez quelque chose en l'appelant le salaire à vie, c'est tout. Mon interrogation, c'était, tiens, ça m'a interpellé. Est-ce que ça voulait dire quelque chose de particulier ? Mais je crois qu'on a compris votre réponse.
Si la société était organisée en fonction des intérêts de la collectivité et non pas d'une poignée de capitalistes, toutes les décisions, toutes les mesures qui seraient prises seraient prises en faveur de la population, elles seraient décidées collectivement, elles seraient mises en application collectivement, et dans cette société-là où le profit serait supprimé et toute la production, tout l'argent serait partagé entre tous, permettrait effectivement, dans ces conditions-là, d'avoir jusqu'à ce jour où on décède, une vie décente, sociale, enfin bon, normale.
Ce que j'entends, c'est qu'en fait, vous allez me dire si je me trompe, c'est que votre plus grande lutte, c'est d'arriver à faire passer le message du collectif.
Vous avez compris.
Oui. Écoutez, je ne sais pas si vous souvenez, hier, je vous avais demandé si vous pouviez choisir un morceau de musique.
Ah là, j'ai complètement oublié ça.
Eh bien, est-ce qu'il n'y a pas quelque chose que vous avez l'habitude d'écouter qui vous sort spontanément ? Il doit bien y avoir quelque chose que vous avez l'habitude d'écouter ou en souvenir, quand vous savez que ce morceau-là, c'est toujours pour vous imprimé, même si ce n'est pas forcément en rapport avec la lutte politique. Hein. Ça, c'est pour avoir une idée du bonhomme que vous êtes, quoi, voilà, quand vous écoutez.
Bon, bah, écoutez, j'ai regardé hier soir à la télé l'émission sur les Beatles.
Ouais.
J'ai redécouvert tout ce que j'avais écouté à l'époque.
Eh ben voilà, allez-y.
C'était drôle, mais bon, je veux dire, c'est pas ma référence.
Oui, oui.
J'ai écouté...
Vous avez passé un bon moment.
J'ai passé un très bon moment hier soir à réécouter des extraits et surtout le succès qu'ils avaient à l'époque. Enfin, je réalisais pas ce que c'était.
Eh ben écoutez, on trouvera un titre des Beatles et puis on le mettra pour conclure. Eh ben, je vous remercie d'avoir accepté notre invitation. Et puis, gardez le drapeau rouge et la lutte chevillée au corps pour le collectif, alors.
Ah ben, écoutez, de ce point de vue-là, ça fait un moment que ça continue de durer et j'ai pas l'intention de lâcher le morceau, sûrement pas, à plus forte raison dans la période actuelle, avec les idées qui sont en train de... le nationalisme, le protectionnisme, le souverainisme qui sont mis en avant par la plupart des illusionnistes électoraux, des politiciens professionnels. Sûrement pas, on va sûrement pas abandonner le drapeau rouge, on va sûrement pas abandonner les idées internationalistes et la défense des étrangers et des immigrés.
Mais je vous entends bien. Si vous arrivez à trouver les bons mots pour vraiment formaliser ce collectif, ça va être entendu.
Je suis pas pour adoucir le clivage, je suis pour poser les problèmes tels qu'ils sont. Nous sommes dans une société de classe, il faut que la classe ouvrière vire la classe bourgeoise.
Eh bien écoutez, ça sera votre dernier mot. Eh bien écoutez, bon courage à vous, monsieur Lacarrère.
Eh bien bonne continuation à vous.
Allez, au revoir, au revoir.
Au revoir. Don't let me down. She does. Ooh, she does. Yes, she does. And if somebody loved me like she does.
in love for the first time. Don't you know it's gonna last? It's a love that lasts forever. It's a love that has no past. Don't let me down. Don't let me down. Don't let me down. Don't let me down. And from the first time that she really done me, nobody ever really done me. Ooh, she done me. She done me good.
Écoutez En promenade dans la campagne, une émission dans la série Les entretiens du questionnaire, campagne législative 2017 en Creuse. Oyez, oyez, gentes-dames et gentilhommes, veuillez entendre la liste des candidats pour les législatives 2017 en Creuse. Michel Vernier, Parti Socialiste. Jean-Jacques Lacarrère, Lutte Ouvrière. Jean-Baptiste Moreau, La République En Marche. Claude Guerrier, Parti Communiste Français. Véronique Dupont-Valade, Divers Droite. Martial Môme, Front National. Michel Mounier, Divers Droite. Damien de Marigny, Debout la France. Jérémy Sotti, Les Républicains, Union et UDI, Pierrette Bidon, Europe Écologie Les Verts, Philippe Gombert, UPR, Laurence Pache, France Insoumise, Cécile Pinault, Alliance Écologique Indépendante, Hervé Guillaumeau, Nouvelle Donne. À vous de faire votre choix.